Kiosque Magazine.
Jeudi 30 juillet, d'un été qui est soudain magnifique. En fait, on l'a tout concentré cette semaine, voilà. Mais ça ne nous empêchera pas de parler d'économie et d'emploi. Et quand je dis « on », évidemment, je parle d'Éric de Belval et de moi-même, François Brodeur. Éric, qu'avez-vous prévu cette semaine?
Alors, des sujets fort réjouissants avec ce beau temps, vous venez de le rappeler. On va commencer par parler des petits-enfants de Keynes. Je crois qu'il y a deux économistes qui dominent l'économie depuis le 19e siècle. Et ce sont Marx et Keynes. Eh bien, ils n'appartiennent évidemment pas à la même famille de pensée, mais leurs intuitions et leurs œuvres ont été novatrices et à bien des égards géniales. Pourtant, les deux se sont largement trompés, notamment sur la question de l'évolution de nos sociétés sur le long terme. Alors, marxistes et keynésiens ont aujourd'hui de nombreux adeptes. Est-ce qu'on doit les suivre? On commencera avec ça. Et puis, on ripera sur le partenariat transpacifique, les progrès de regroupement économique comme les accords de libre-échange suscite à la fois des espoirs et des craintes. D'une part, on en attend des baisses du coût des produits pour les utilisateurs finaux, et non pas finaux, je vous le rappelle, via par exemple l'abandon des
J'accepte
taxes...
J'accepte pas cette réforme.
Ah, je suis désolé.
C'est de l'impérialisme linguistique en provenance d'un institut Sleyrose-Les. Voilà.
Vous vérifierez dans le dictionnaire de l'Académie française qui seul fait foi.
Oui, et qui sort à tous les 327 ans.
Bon, donc, via l'abandon des taxes douanières, et d'autre part, se pose le problème de la déréglementation qui affaiblit le pouvoir des États et renforce celui de l'entreprise. Alors, comment se positionne le partenariat transpacifique? Et en ce qui me concerne, on terminera avec Warren Buffett. Pourquoi investir comme lui est une mauvaise idée, hein? Son nom est associé à celui d'un gourou de la bourse, visionnaire et infaillible. On peut pas nier qu'il ait réussi à s'enrichir en spéculant habilement, et ses explications sur les mécanismes économiques et la façon d'en jouer en ont fasciné plus d'un. Il est moins certain qu'elle ait réellement enrichit ses disciples.
Et pour ma part, je vous parle d'autopartage. C'est un marché qui avait de la difficulté à Montréal parce que le maire n'y croyait pas, le maire Coderre. Or, soudain, le maire Coderre y croit. Il croit au tout électrique, mais il croit de telle manière que les joueurs actuels peuvent se sentir complètement exclus de ce marché. On pourra revenir éventuellement sur ce qui semble être le premier faux pas limite éthique du maire Coderre. Voilà, je l'ai dit. Ubérisation, on en a beaucoup parlé d'ubérisation, cette manie de revoir l'économie à la fonction des applications pour téléphone mobile. Eh bien, Francine Pelletier a signé dans Le Devoir un texte fascinant sur la question. J'ai très hâte de vous le lire, voilà. Et finalement, je fais suite à nos sujets de la semaine dernière où je vous parlais de la sécurité boursière en Chine. Eh bien, ça va pas mieux, la bourse en Chine, malgré toutes les méthodes déployées. On s'interroge maintenant sur la validité des statistiques chinoises. Et vous allez voir que là, il y a beaucoup, mais beaucoup de pensées magiques. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. John Maynard Keynes était vraisemblablement le plus grand économiste que la Grande-Bretagne ait produit. Un individu très, très, très intéressant, soit dit en passant, autant pour sa vie personnelle que pour ses considérations économiques. Et c'est votre premier sujet.
Oui, alors vous savez que son œuvre majeure s'intitule « Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie ». Alors, je ne sais pas si il y a grand monde qui le lit encore aujourd'hui, mais néanmoins, on considère cet ouvrage comme une véritable Bible. Et est-ce que la durée d'une Bible, c'est l'éternité? On peut se poser la question. Alors, en tout cas, ça a intéressé Éric Desrosiers, notre cher Éric Desrosiers, qui nous fournit tant de matière. Et il s'est intéressé donc aux petits-enfants de Keynes. Tout le monde aura compris que la fameuse société des loisirs n'est pas pour demain.
Oui.
Là aussi, les inégalités vont croissant, mais pas dans le sens habituel. Le célèbre économiste John Maynard Keynes disait dans les années 20 qu'au rythme où vont les progrès technologiques, ses petits-enfants n'allaient tout au plus avoir à travailler que 10 à 12 heures par semaine. Ces prédictions nous feraient bien rire aujourd'hui si on n'était pas déjà trop occupé à essayer de finir ce qu'on fait au travail avant de courir au match de soccer du petit où l'on pourra répondre au dernier courriel du patron. J'espère que vous avez bien reconnu votre emploi du temps à travers cette allégorie. Le monde du travail n'a pourtant jamais occupé aussi peu de place dans nos vies, rappelle le sociologue français Jean Viard. Avec les études qui s'allongent, les journées de travail qui raccourcissent, les vacances et autres congés parentaux qui s'additionnent, sans parler de la retraite qui commence plus tôt et l'espérance de vie qui s'allonge, un travailleur moyen ne consacre aujourd'hui à sa carrière pas plus de 12% de son temps de vie éveillé, 16% aux États-Unis, comparativement à 30% dans les années 50 et à 70% pour un ouvrier ou un paysan du 19e siècle. Il n'y a pas que le total d'heures de travail qui compte, il y a aussi la façon dont sont maintenant organisées nos vies, rétorquaient les experts à l'origine de l'indice canadien du mieux-être dans un rapport en 2010. l'indice canadien du mieux-être. Je l'adore, celui-là. Mm-hmm. Le nombre de personnes qui doivent composer avec des horaires inhabituels, comme les quarts de travail tournant et les horaires irréguliers, a aussi augmenté, tout comme celui des travailleurs qui doivent aussi s'occuper d'une personne âgée dépendante, 28% quand même, ou prendre soin à la fois de jeunes enfants et de parents vieillissants. On est aussi victime de l'Internet et autres téléphones intelligents capables de nous trouver et de nous ramener instantanément au bureau, partout et en tout temps, pour faire du multitâche comme si la journée de travail ne finissait jamais complètement. Pas étonnant dans ce contexte qu'environ la moitié des Canadiens finissent souvent leur journée avec l'impression de ne pas avoir accompli tout ce qu'ils voulaient faire. En moyenne, dit l'Institut de la statistique du Québec, les Québécois consacrent environ 8,5 heures par jour à leur travail professionnel, éducation et déplacement compris, contre presque 11 heures à des activités personnelles, dormir, faire sa toilette. Bon, alors dormir, c'est une activité personnelle, d'accord. Un peu moins de 4 heures aux tâches...
Moi, je fais ça tout seul, en tout cas. Mais...
d'accord. Un peu moins de 4 heures aux tâches domestiques, cuisine, ménage, soins des enfants, et environ 6 heures à leur temps libre. Bénévolat, vie sociale, loisirs. Bon, là-dedans, la télévision doit occuper une grosse partie, j'imagine. Les hommes continuent notamment à consacrer plus de temps au travail professionnel et les femmes au travail domestique, mais les écarts se réduisent. On assiste aussi, depuis au moins 30 ans, à une autre tendance que le pauvre Keynes n'avait pas prévue. À son époque, ce sont les gens les plus modestes qui avaient les plus longues heures de travail et les plus rares moments de détente, alors que les plus riches et les plus éduqués se faisaient une fierté de ne pas avoir à travailler. La situation se serait aujourd'hui renversée. Aux États-Unis, par exemple, les hommes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires ont gagné 8 heures de loisirs par semaine entre 1985 et 2005, alors que les diplômés universitaires en perdaient 6 et revenaient à un niveau inférieur à celui qu'ils avaient en 1965. Un phénomène similaire semble s'observer au Québec. Selon l'ISQ, l'Institut de la statistique, les Québécois qui gagnaient plus de 80 000 $ par année en 2010 consacraient l'équivalent de 47 heures par semaine à leur carrière, contre un peu plus de 27 heures pour ceux qui avaient un revenu de 15 000 à 30 000 $. Le travailleur plus riche compenserait cet écart en coupant une heure par jour de temps libre, une autre heure de nuit de sommeil ou autres activités personnelles et quelques dizaines de minutes consacrées à leurs tâches domestiques. On assiste visiblement à la montée d'une autre sorte d'inégalité que celle dont on parle tout le temps et dont les victimes seraient cette fois les plus riches. Ou peut-être pas. Si le nombre d'heures de travail des moins riches et des moins scolarisés a reculé, c'est largement contre leur volonté, notent des experts. C'est entre autres parce que des emplois à temps plein moins qualifiés, notamment dans le secteur manufacturier, ont disparu et qu'ils ont été remplacés par des emplois aux horaires plus variables dans le secteur des services. À l'autre bout du spectre, la situation serait compliquée. Cela commence par le fait que ceux qui sont mieux formés travaillent peut-être de plus longues heures, mais commencent aussi plus tard leur carrière. Ayant accès aux emplois les mieux rémunérés, les plus valorisés socialement et les plus valorisants personnellement, nos soi-disant bourreaux de travail ont souvent aussi plus d'incitatifs et de plaisir que les autres à être au boulot. Mais comme les temps sont durs, que la concurrence est féroce et que l'une des seules mesures de productivité dans l'économie du savoir est le nombre d'heures travaillées, ils se sentent souvent également obligés d'en cumuler toujours plus. En résumé, pendant que les uns ont plus de temps de loisirs mais voudraient probablement en avoir moins, et que les autres en ont moins mais préféreraient sans doute en avoir plus, tout le monde a l'impression de courir toujours plus vite. Sur ce, bonnes vacances.
Et les riches vont être plus riches, les pauvres plus pauvres. Allez, je vous parle d'autopartage. Si vous ne vivez ni à Montréal ni à Québec, vous êtes peut-être pas familier avec le concept. L'autopartage, c'est le fait de s'abonner finalement à une société, une coopérative, ça peut prendre différentes formes, qui met à votre disposition, à demande, un véhicule moyennant une cotisation annuelle ou une prime qu'on verse une seule fois. Bon, encore là, les modèles financiers varient à l'infini. Véhicule que vous prenez à un endroit, que vous remettez au même endroit, ça peut être pas loin de chez vous, les municipalités vont mettre des stationnements à disponibilité. À Montréal, on connaît évidemment Automobile qui est Car2Go, mais il y a de différentes formes encore là. Beaucoup, beaucoup de sociétés ailleurs qui agissent dans le même domaine. Et c'est un domaine que Montréal ne voulait pas encourager sous prétexte que ça décourageait l'industrie du taxi, que c'était un compétiteur injuste. Or, soudain, revirement, Montréal se prépare à encourager l'industrie de l'autopartage, mais vous allez voir que ça semble assez orienté. François Cardinal a attaché tout un grelot là-dessus. J'ai lu ça sur ma tablette. Alors, je serais bien en mal de vous dire exactement quel jour c'est paru dans la presse. un texte qui s'appelle « Lubie et Lobby ». Non, non, non. Dites-moi qu'on ne replonge pas dans les débats éthiques, qu'on n'est pas forcé de décortiquer à nouveau les documents de la ville pour s'assurer de l'intégrité de chaque virgule. Non, non, non. On était si bien, quasiment apaisé. Denis Coderre avait réussi à diriger la ville sans reproche éthique jusqu'ici, malgré tout ce qui avait été dit sur lui et son équipe avant les élections. Rien n'avait retroussé, pendant 20 longs mois. Puis, paf, cette lubie de l'autopartage électrique, qui retrousse de partout. Pas compliqué. Plus on avance dans ce dossier, plus on s'y perd en questions et en interrogations, à commencer par la plus fondamentale. Pourquoi? Pourquoi la ville tient-elle à imposer un service électrique d'ici 5 ans, alors qu'il aurait été si simple d'inciter les entreprises déjà implantées à s'électrifier graduellement? Pourquoi cette aventure administrative compliquée avec les écueils qu'on imagine, alors qu'on aurait pu demander à Automobile et Car2Go de prendre le virage électrique dès l'an prochain? La Québécoise Automobile possède déjà 50 autos électriques. Quant au géant Car2Go, il compte des parcs de voitures 100% électriques dans 4 villes. Y aurait-il levé la main pour que Montréal soit la prochaine? Je ne comprends pas. Le maire Coderre a commencé par s'opposer à ses soi-disant concurrents du taxi. Il leur a mis des bâtons dans les roues, leur a imposé un moratoire, les empêchait de croître. Puis maintenant, il aime tellement l'idée qu'il lance un appel d'intérêt international pour... Pourquoi, déjà? Pour demander à des compagnies internationales intéressées à faire affaire à Montréal de venir ici, a expliqué le responsable du dossier, Aref Salem, hier. Hein? Car2Go n'est pas assez international? Et ce n'est pas assez que la pionnière Communauto qui gère Automobile ait une réputation internationale? Je ne comprends pas. On ignore ce qui s'est fait jusqu'ici. On recommence à zéro. On ferme les portes à l'allemande Car2Go et on ouvre toutes grandes les portes à qui au juste? Vous dites que ce n'est pas Bolloré? Bolloré, évidemment, c'est un entrepreneur actif à Paris et dans les batteries, mais il a fait une petite voiture bleue qui a été construite par Pininfarina, si je me rappelle bien, et qui sert de voiture communautaire à Paris. Est-ce que je suis paranoïaque? Peut-être que je le suis. En tout cas, le maire pense que je le suis. Il y en a qui paranoïent et qui voient des scénarios de deal, a-t-il dit il y a quelques semaines. Il n'y en a pas de deal. OK, pas de deal. Mais dans ce cas, pourquoi toutes ces coïncidences depuis la rencontre, jamais inscrite au registre des lobbyistes, avec Bolloré? Pourquoi le maire Coderre, qui voulait oublier jusqu'à l'idée même de l'auto en libre-service lorsqu'il était candidat, a-t-il soudainement changé son fusil d'épaule? Pourquoi vouloir implanter un service similaire à l'Autolib' de Paris après avoir rencontré son propriétaire? Pourquoi un appel d'intérêt international après avoir socialisé avec un patron à l'international? Et pourquoi imposer une autonomie de 150 km après s'être fait vanter les mérites de la Blue Car de Bolloré, dont l'autonomie en cycle extra-urbain est précisément de 150 km? Parce que c'est là que le bât blesse pour les autres fournisseurs. Les voitures électriques actuelles n'ont pas cette autonomie en ville de 150 km. Okay? Il y en a une, en fait, qui l'a, et c'est Tesla, mais elle est à 80 000 $. Alors, il est exclu que ça serve en autolib, d'autant plus que ça accélère en 2,3 secondes de 0 à 100. Alors, on ne peut pas mettre ça dans toutes les mains. Alors, voilà que Montréal fait un appel d'offres et demande une voiture électrique qui aurait cette autonomie de 150 km. Or, il n'y a qu'un joueur sur le marché actuellement qui l'ait, cette voiture-là, et c'est Bolloré. Et justement, le maire a rencontré M. Bolloré récemment. C'est le grelot qu'avait attaché François Cardinal. « Je suis une âme charitable. Je suis prêt à croire qu'il n'y a pas de grand complot. Prêt à croire qu'il n'y a pas de deal avec Bolloré, qu'on ne se dirige pas vers un monopole français. Mais peut-on au moins avouer dans ce cas qu'il y a un maire qui aime beaucoup, beaucoup le modèle Bolloré depuis sa rencontre avec Bolloré? Imaginez. L'entreprise française a déposé un mémoire devant la Commission des transports de Montréal l'automne dernier dans le cadre des consultations sur les véhicules en libre-service. » Une fois les travaux terminés, les élus ont pondu un beau rapport contenant 8 recommandations. Or, pas une ligne sur Bolloré, pas un mot sur Autolib', rien sur l'idée d'offrir l'exclusivité des vignettes de stationnement à toute entreprise qui offre tel type de véhicule avec tel moteur, tel nombre de places, reléguant du coup les autres acteurs à l'oubli. Et c'est pourtant ce sur quoi planche la ville, en lançant un appel d'intérêt douteux avec des critères qui n'en sont pas, a-t-on dit hier, et des exigences qui seront forcément désuètes une fois appliquées. Plus tôt, les commissaires recommandaient que la ville encourage les entreprises exploitantes actuelles à étendre leurs services sur l'ensemble du territoire. Ils proposaient l'adoption de mesures pour aider à l'électrification des véhicules, comme une tarification distincte pour les voitures propres. Voilà qui était infiniment plus simple. Voilà qui nous aurait permis de gagner du temps et de l'argent. Voilà qui nous aurait surtout évité de retomber dans les questionnements éthiques dont on se serait bien passé. Lubie et lobby forment décidément un cocktail explosif.
Moi, je suis né dans une famille de cannibales. Et mon papa et ma maman jamais ne sont contents. Il voudrait tant que je morde à belles dents les morceaux de viande qu'il me prépare pour le souper. Mais moi toujours je boude à table et tout ce que j'accepte de manger dans mon assiette ce sont les patates en purée. Moi je suis né dans une famille de cannibales et j'ai dessous mon lit planté un potager. J'attends la nuit tombée que mes parents soient endormis pour en récolter les fruits. Les humains n'ont jamais l'air appétissants, c'est sûrement pourquoi il y en a autant. Des rabots gris, des laits, des fouaillés et des méchants et de monstrueux tyrans. Il paraît qu'on devient un peu ce que l'on mange. Tellement de gens autour de moi qui ne mangent que des cochonneries. Des rabots gris, des laits, des fouaillés et des méchants, de monstrueux tyrans. Famille de cannibales, mais moi toujours je serai végétarien, ou bien je ne mangerai que des petits bébés et des jolies jeunes filles. Si on ne laisse pas le choix et qu'on me force à manger de l'humain, c'est par toi mon ami que je commencerai. Je te croquerai les doigts, je te mangerai toute crue, mon amour toute crue. Les humains n'ont jamais l'air appétissants. Pourquoi il y en a autant? Des rabots gris, des laits, des fouaillés et des méchants, et de monstrueux tyrans. Il paraît qu'on devient un peu ce que l'on mange. Tellement de gens autour de moi qui ne mangent que des cochonneries. Des rabots gris, des laits, des fouaillés et des méchants.
Urbain des Bois qui chantait Cannibale, un choix musical par Rémi Hermoso qui assure la mise en onde de cette émission et le fait qu'on dise pas trop d'imbécilité, encore que là, il a une puissance limitée d'intervention. Voilà, je l'ai dit. Non, coupe-moi pas! De là, on va passer à la gestion de l'offre. Je sais que ça fait quelques semaines déjà que vous voulez en parler, gestion de l'offre et produits agricoles, les négociations transpacifiques, donc traité de libre-échange, tout ça est sur la table. Un mot avant de vous céder la parole pour vous dire que cette semaine, les différents intervenants du monde agricole, Agropure pour nommer la plus grande coopérative chez nous, disaient que 24 000 emplois au Canada dépendent de nos systèmes de mise en marché du lait, de la volaille et des œufs. C'est 24 000 emplois sérieux, donc. Et maintenant, qu'allez-vous nous dire sur le libre-échange?
Eh bien, que les discussions reprennent entre le Canada et 11 autres pays pour créer quoi? Ben, pour créer la plus grande zone de libre-échange au monde. Alors, évidemment, tout le monde souhaite libéraliser le commerce et les investissements de part et d'autre du Pacifique. Mais, beaucoup s'inquiètent quand même des concessions qui sont nécessaires. Alors, on va essayer de comprendre la situation canadienne. Du moins, c'est ce que nous invite à faire Bruno Maltais, qui est un journaliste de Radio-Canada. et dont je vous lis l'article. Le partenariat transpacifique vise à libéraliser le commerce et les investissements entre 12 États autour de l'océan Pacifique. Voilà, on a bien compris de quoi il s'agissait. Ces pays regroupent à peu près 800 millions de personnes et représentent 40% de l'économie mondiale. S'il est conclu, le partenariat pacifique formera la plus grande zone de libre-échange au monde. Il y a un absent de taille, la Chine, qui fait plutôt partie du partenariat économique régional complet qui regroupe 16 pays de la région Asie-Pacifique et qui est généralement perçu comme un contrepoids au partenariat transpacifique influencé principalement par les États-Unis. Ce qui est une bonne chose, de même qu'il y a le Mercosur en Amérique latine. Il faut qu'il y ait des équilibres entre des regroupements, sinon, bien évidemment, on arrive à la situation monopolistique qui est potentiellement un drame. Bon, pardon pour cette parenthèse. Pour se positionner avantageusement sur les marchés asiatiques, le Sénat américain a approuvé en juin une procédure de négociation accélérée demandée par le président Obama. Les pourparlers pourraient passer à la vitesse supérieure. L'ouverture des marchés est aussi un moyen de stimuler la concurrence et donc d'encourager l'innovation et de faire baisser les prix. Les consommateurs canadiens pourraient donc à terme payer certains produits moins chers. Ça, c'est une hypothèse, parce qu'on peut dire que c'est ça au départ. On peut aussi dire qu'à l'arrivée, c'est exactement le contraire.
Hein, oui, c'est le miroir aux alouettes qu'on utilise le plus pour convaincre la population.
Ouais. Les manufacturiers et exportateurs canadiens estiment que le partenariat transpacifique leur serait bénéfique, puisqu'il ferait tomber des barrières tarifaires et non tarifaires qui augmentent les coûts des entreprises. D'un point de vue stratégique, ce partenariat est vu par le Canada comme une porte d'entrée sur plusieurs marchés asiatiques. Il créerait une nouvelle zone de libre-échange complémentaire à celle avec les États-Unis et le Mexique et à celle avec l'Union européenne, qu'on a largement commenté ici. En faisant tomber des mesures de protection des marchés, la libéralisation rend généralement certaines industries plus vulnérables. On en parlait à l'instant, les producteurs canadiens d'œufs, de lait et de volailles redoutent donc l'abandon du système de gestion de l'offre, comme le demandent plusieurs pays qui participent aux négociations du partenariat transpacifique. Devant des centaines de producteurs inquiets venus manifester devant ses bureaux vendredi, le ministre d'État fédéral à l'agriculture, Maxime Bernier, a promis qu'Ottawa protégera intégralement le système de gestion de l'offre. Là aussi, c'est la réponse classique.
Oui, mais Denis Lebel, cette semaine, a déclaré qu'il serait intégralement derrière les producteurs, mais qu'il ne pouvait pas garantir le résultat des négociations.
Eh oui. C'est là la limite de l'interventionnisme, pourtant bien nécessaire de l'État, sur des grandes questions comme celle-là. Le système de gestion de l'offre est un mécanisme qui vise à maintenir un équilibre entre l'offre et la demande, ce qui permet de contrôler la fluctuation des prix. Ce mécanisme a été mis en place dans les années 70 pour assurer une certaine stabilité aux producteurs. Du côté des consommateurs, les effets font l'objet de débats. Les uns disent que la gestion de l'offre tire les prix à la hausse, les autres affirment qu'elle assure un accès à des produits de qualité et que cette mesure doit être comprise dans un contexte plus large du fait qu'elle soutient des producteurs qui contribuent à l'économie nationale. Autrement dit, si des producteurs n'arrivent plus à être compétitifs face à de grands producteurs d'ici ou d'ailleurs, ce sont les économies locales qui en paieront le prix. Soutiennent les défenseurs de la gestion de l'offre. La manière dont les droits de propriété intellectuelle seront encadrés soulève aussi des inquiétudes. Par exemple, la présidente de Médecins sans frontières Canada, Heather Culbert, estime qu'en accroissant la portée et la durée des brevets pharmaceutiques, le PTP pourrait faire augmenter le coût des médicaments, ainsi nuire à la santé publique. Des craintes plus générales portent notamment sur la perte de pouvoir des gouvernements au profit des entreprises. C'est ça le point central. Et plus spécifiquement sur la capacité des entreprises de poursuivre les gouvernements. Ça, c'est le corollaire. Il s'agit d'une inquiétude récurrente dans les négociations d'accords de libre-échange, qui n'est d'ailleurs pas propre au Canada. Plusieurs manifestations ont eu lieu, allant d'agriculteurs japonais à des infirmières américaines. Même si le premier ministre Stephen Harper affirmait en 2012 que les conservateurs étaient les seuls à s'être engagés dans leur plateforme électorale à appuyer la gestion de l'offre, l'évolution des négociations et du discours laisse planer le doute. L'an dernier, les propos contradictoires que vous venez de souligner le démontrent. L'an dernier, le gouvernement fédéral a ouvert une brèche dans le cadre de l'accord économique et commercial global avec l'Union européenne en augmentant la quantité de fromage que les Européens pourront exporter au Canada. Le mois dernier, le Premier ministre affirmait qu'il est essentiel pour le Canada de faire partie de l'éventuel partenariat transpacifique, ce qui fait craindre à plusieurs que le gouvernement envisage désormais de laisser tomber la gestion de l'offre. Soyez assurés que notre gouvernement continuera de lutter contre les mesures protectionnistes qui entravent le commerce et nuisent à la croissance économique, soutenait de son côté le ministre du Commerce international Ed Fast devant les participants de l'édition panaméricaine du Forum mondial de Toronto le 9 juillet. Deux semaines plus tard, Une lettre signée par 21 membres du Congrès américain accusait Ottawa de ne pas s'engager sérieusement dans les discussions au sujet de l'accès au marché des produits laitiers, ce à quoi le porte-parole d'Edfast a répondu que le Canada ne se laissera pas intimider par les États-Unis. Waouh, on a peur. Le Parti vert invite les Canadiens à signer une pétition contre les négociations entourant le partenariat transpacifique parce qu'elle vise à protéger les profits des grandes sociétés aux dépens des Canadiens et de leur environnement. Le Bloc québécois réaffirme quant à lui son appui total au système de gestion de l'offre et aux agriculteurs québécois. Ottawa ne doit pas signer une autre entente de libre-échange sur le dos des agriculteurs du Québec, d'autant plus que nos producteurs de fromage attendent toujours une compensation juste et équitable à la suite de l'accord avec l'Union européenne, a indiqué le chef du BQ, Gilles Duceppe. Mais à 3 mois des élections fédérales prévues le 19 octobre prochain, fort est à parier que les chefs de parti demeureront prudents quant à leur déclaration sur un sujet qui divise les Canadiens. Non seulement il les divise, mais il les met en péril. Je crois qu'il faut rester extrêmement lucide sur, vous avez employé l'expression miroir aux alouettes, elle me paraît bien justifiée. Les miroirs grandissent, les alouettes sont plus nombreuses, mais les catastrophes, proportionnellement, vont le devenir.
Et il faut dire ici que, vite, comme ça, quand on s'aperçoit qu'aux États-Unis, le lait est moins cher, c'est facile de condamner la situation au Canada. On pense, par exemple, en France, où l'épicerie coûte beaucoup moins cher qu'ici. Mais il faut savoir qu'en France, l'agriculture est subventionnée à 70 %. 70 %, c'est énorme comme investissement. Ça donne des fromages qui, justement, sont plus compétitifs, même rendus sur le marché montréalais, que les nôtres. Il faut savoir aussi que sur les 12 000 fermes laitières au Canada, il y en a 6 000 au Québec. Et que le partenariat transpacifique, c'est pas pour l'économie spéciale du Québec. Effectivement, c'est plus pour l'économie de l'Ouest du Canada que la nôtre. Alors, on peut s'attendre à ce que les intérêts des agriculteurs québécois soient largement sacrifiés, d'autant qu'on va entrer en campagne électorale dimanche et que le gouvernement va se sentir délié de toutes ses promesses. Oui, alors je poursuis dans le même sujet. L'arbitrage international inquiète ces temps-ci. Il inquiète même tellement que Bill Gates et un autre homme d'affaires dont j'oublie le nom pour l'instant ont décidé de sortir des fonds de leur poche pour aider les gouvernements des pays en développement à se défendre contre les poursuites des grandes sociétés qui veulent se protéger avec des traités, notamment, je pense, aux cigarettiers qui actuellement poursuivent l'Uruguay en reprochant à ce petit pays de finalement se empêcher le commerce libre de la cigarette. Évidemment, ils y vont avec des tonnes d'avocats, eux autres.
Je reviens une seconde sur Uber, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure. Figurez-vous qu'un chauffeur de taxi de l'Ontario a déposé une plainte contre Uber de 410 millions de dollars. C'est intéressant parce qu'on s'aperçoit aussi que le modèle Uber a du plomb dans l'aile. Il y a un site qui est en train de se casser la figure.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
De retour pour la deuxième moitié de cette émission au cours de laquelle il sera question des investissements là à Warren Buffett, des statistiques chinoises, mais d'abord du meilleur des mondes puisqu'il s'agit du texte de Francine Pelletier paru dans Le Devoir du 29 juillet. Texte qui a retenu mon attention, que je m'empresse de vous lire parce que c'est un délice, voilà. On n'arrête pas le progrès. La liste d'applications mobiles conçues pour rendre le consommateur heureux et les commerçants en joie le vert vient de s'allonger. Après Airbnb et Uber en train de révolutionner les industries du logement et du taxi, voici Rover, la réponse à vos angoisses de stationnement. Lancée la semaine dernière à Toronto, l'application permet à un conducteur de se stationner dans une allée de garage ou autres espaces privés au prix avantageux de 2 $ de l'heure, ce qui donne une petite idée des coûts faramineux de stationnement là-bas. 30 % du montant doivent ensuite être partagés entre les concepteurs et les propriétaires de terrain. Le promoteur Tim Wotton espère lancer l'application Coast to Coast d'ici la fin de l'année. Réaction à Toronto? Il va falloir accepter le fait que la technologie déboule, dit le maire John Tory. Elle n'attend pas que les gouvernements la rattrapent. Bonne indication que l'économie de partage a beau faire des mécontents, contrevient souvent aux règlements municipaux, elle n'est pas sur le point de disparaître. La ville Rennes offre d'ailleurs un autre exemple du dernier cri en matière de transport. On songe actuellement à transformer les voies conçues pour le covoiturage lors des Jeux panaméricains en voies payantes. Les véhicules transportant 3 personnes ou plus y auraient toujours droit, mais aussi le conducteur solo prêt à payer pour le privilège d'aller vite. Si vous avez de la difficulté à suivre, vous n'êtes pas les seuls. Le plan reviendrait à encourager simultanément le transport collectif et la privatisation des routes. Bienvenue au meilleur des mondes. Ce dernier exemple illustre parfaitement la contradiction idéologique qui est au cœur du phénomène de l'heure, l'économie de partage. Curieuse convergence entre la contre-culture et la cyberculture. L'idée de démocratiser des services publics a vu le jour à San Francisco, l'endroit même qui a vu fleurir les communes et les hippies quelques décennies auparavant. Les enfants du Peace and Love ont été les premiers à vouloir partager la terre, les ressources et jusqu'à leurs partenaires sexuels dans l'esprit de bâtir un monde meilleur. Aujourd'hui, c'est au tour des géants de Silicon Valley de se dévouer à la cause du communautarisme. Dans un monde de plus en plus complexe, éparpillé, impersonnel, où personne ne se regarde dans les yeux en voyageant dans le même wagon de métro, les Mark Zuckerberg de ce monde ont vite fait de jouer les entremetteurs. Le créateur de Facebook ne se voit d'ailleurs pas comme un simple et richissime entrepreneur. « De plus en plus de gens aujourd'hui veulent des entreprises qui croient en autre chose que le profit », dit-il, facile dans son corps marqué. La lettre publiée en 2004 par les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, professait le même dédain pour le capitalisme pur et dur et promettait de ne pas faire de mal. « Don't do wrong », c'est la devise de Google. Comme les hippies d'antan, explique Ira Bazin dans un documentaire radio fascinant de Valley of the Kings, les cybergeeks d'aujourd'hui veulent améliorer le monde dans lequel on vit. Comme les adeptes de la contre-culture, ils sont souvent de fervents libertariens. Ils ne veulent pas que les politiciens ou les gouvernements leur disent quoi faire. La crise financière de 2008 a augmenté le penchant à compter sur ses propres moyens plutôt que sur les services commerciaux d'usage. Airbnb et Uber sont tous deux nés à San Francisco à peu près à ce moment-là. Depuis, on ne compte plus le nombre d'applications conçues pour l'esprit libre, voulant se faciliter la vie. Prenez Lyft, créé à San Francisco en 2012 et opérant aujourd'hui dans 65 villes américaines. L'application vous met en contact avec un bon samaritain prêt à vous donner un lift. C'est Uber, mais en moins formel. Il ne s'agit pas de chauffeurs de taxi amateurs, mais de gens qui se déplacent pour leurs propres raisons et qui rentabilisent leur trajet. Pour sa part, la compagnie se vante d'utiliser la technologie pour rassembler plutôt qu'isoler les gens. À l'instar de Jean Coutu, elle promet la découverte de nouveaux amis tous les jours. C'est de la bouillie pour les chats, évidemment, mais qui a le mérite de convaincre les investisseurs d'y mettre leur argent. Plus de 300 millions pour Lyft, quand même. Le capitalisme n'a jamais eu si bonne presse depuis qu'il a trouvé le génie de se draper dans l'utopisme des années 70. On n'arrête pas le progrès. La propagande, non plus. Et ça pose toute la question, effectivement, de l'ubérisation de l'économie, ce texte, et évidemment de toutes les sous-questions fiscales.
Oui, et vous citiez la devise de Google, elle est intéressante. Vous savez, quelqu'un demandait récemment au PDG de Google, qu'est-ce que vous serez dans 10 ans, dans 20 ans? Vous savez quelle était sa réponse? Nous serons le guide. Ça me rappelle des trucs un peu terribles.
Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, l'esprit même de l'investissement américain traditionnel. Traditionnel, c'est le mot pour aussi dire désuet, n'est-ce pas?
Oui, on parle de pensée magique là beaucoup aujourd'hui. Vous savez que quelqu'un avait demandé un jour à l'éditeur de François Sagan, mais comment c'est fait ces bouquins? Et l'éditeur avait répondu, si je le savais, je serais riche. Et si vous demandez à Warren Buffett, comment est-ce que vous vous enrichissez? Peut-être qu'il vous fera une démonstration très convaincante. Est-ce qu'elle est encore d'actualité? C'est la question qui a intéressé Julien Brault dans Les Affaires et il se demande pourquoi investir comme Warren Buffett est une mauvaise idée. Je ne fais pas partie de ceux qui remettent en question l'exceptionnel talent d'investisseur de Warren Buffett. Cependant, en tant qu'observateur des transformations économiques en cours, il m'apparaît évident qu'aucun jeune investisseur ne devrait imiter Warren Buffett. Non pas parce qu'il a tort, mais simplement parce que l'environnement technologique de 2015 est fondamentalement différent de celui de 1956, lorsque l'oracle d'Omaha a lancé son Buffett Partnership. Ne serait-ce qu'en raison de la diminution de l'espérance de vie des entreprises, investir à long terme dans des entreprises déjà matures n'est pas une idée géniale. Aussi, c'est précisément ce qu'a toujours fait Warren Buffett, qui a internalisé les principes exposés par Benjamin Graham dans « L'investisseur intelligent ». Notamment, Graham y recommande de seulement investir dans des sociétés versant un dividende et ayant dégagé un profit au courant de chacune des 5 dernières années fiscales. Voilà un principe très simple, hein, et facile à respecter.
Avec de facile tels... à respecter, c'est pas sûr. Ces actions-là ne se trouvent pas sous les pas d'un cheval.
En 1956, elles étaient plus nombreuses. Enfin, c'est ce que dit l'article. Avec de tels principes, ce n'est pas étonnant que Warren Buffett ait déjà dit qu'il préfère ne pas investir dans les titres techno, ou si peu. Dans les faits, il l'a fait avec IBM en 2011. Mais les titres alors achetés lui ont procuré un rendement négatif total de 9% en 4 ans. De toute évidence, il aurait mieux fait de s'en tenir à sa règle. Si la longévité d'IBM est exceptionnelle, ce genre de longévité est de plus en plus rare. En effet, en 1958, les 500 plus grandes sociétés américaines, répertoriées par le Standard & Poor's 500, conservaient ce statut en moyenne durant 61 ans. Aujourd'hui, la moyenne a fondu à 18 ans. Cette statistique, du reste, n'illustre pas l'ampleur du phénomène, l'échantillon du SP500 n'étant pas représentatif du cycle de vie des sociétés fondées récemment. Aujourd'hui, les sociétés les plus prometteuses attendent plus tard que jamais pour s'inscrire à la bourse. De ce fait, la longévité moyenne au SP500 de 18 ans est maintenue artificiellement élevée. Par exemple, si Uber, tiens, les revoilà, Airbnb, oula, SpaceX ou Dropbox étaient en bourse, pensez-vous que JCPenney aurait encore sa place au SP500? Effectivement. Et ce n'est pas que les grandes sociétés dont le cycle de vie a raccourci. Il semble que ce soit également le cas des jeunes startups dont l'espérance de vie moyenne se mesure désormais en mois. La baisse constante des coûts de démarrage d'une startup qui semble baisser au rythme de la soi-disant loi de Moore qui prévoit que la densité des processeurs double tous les 2 ans est ici en cause. Tiens, je fais une parenthèse. Vous savez que les dernières études sur la loi de Moore disent que d'ici à peu près 40 ans, on aura la totalité de ce qu'on peut avoir dans un cerveau humain dans une clé USB. Ajoutez 20 ans à ça, hein, toujours selon le principe de la loi de Moore, dans une clé USB, vous aurez la totalité, donc à peu près en 2070, là, on fera toujours cette émission, vous le savez, eh bien, on pourra avoir la totalité du savoir humain dans une clé USB.
Oui, ça, voyez-vous, c'est probablement plus par le fait que chaque année, les cerveaux sont de moins en moins compétents.
D'accord. Bon. Alors, cette baisse du coût a ainsi incité les investisseurs en capital de risque au stade de l'amorçage à multiplier le nombre de leurs investissements. Aussi, la longévité des startups semble être en chute libre, même s'il existe peu de statistiques sur ce phénomène. Au Royaume-Uni, toutefois, on note que le taux de survie d'une startup un an après sa fondation a chuté de 96,5% à 86,7%. Ça reste quand même bien élevé. Si ces chiffres sont représentatifs, on parle ici d'une chute très rapide. La loi de Moore, en plus de faire baisser les coûts de démarrage des startups, pourrait aussi accélérer le rythme auquel notre société innove. C'est du moins le point de vue du futurologue Ray Kurzweil, aujourd'hui directeur de l'ingénierie de Google, les voilà, selon qui la croissance exponentielle de la puissance des ordinateurs est garante d'une innovation technologique, elle aussi exponentielle. Il faut rester sceptique face à un tel enthousiasme, surtout que la loi de Moore semble aujourd'hui s'essouffler, mais il ne faut pas rejeter du revers de la main ce lien potentiel entre l'innovation et la puissance de calcul des ordinateurs. Au-delà des ordinateurs, il semble que la réduction du cycle de vie des entreprises suive une courbe plus ou moins exponentielle, inversement proportionnelle à l'accélération du rythme de l'innovation. C'est une réalité qui semble se confirmer au niveau macroéconomique, et ce, bien avant l'apparition des ordinateurs. Dans les faits, les cycles de Kondratiev, dont l'économiste Schumpeter, bien connu, attribuer la cause aux innovations technologiques majeures, semble se contracter. Excusez-moi, oui. Je suis désolé, mais le mot de Schumpeter me fait éternuer, et ça, j'y peux rien, à chaque fois, c'est pareil. La durée des cycles...
Schumpeter,
d'ailleurs, rien que c'est pas un nom, c'est un éternuement, vous comprenez? C'est comme quand on vous dit que vous pouvez pas dire le mot spit en anglais sans cracher, ben c'est pareil. Allez, soyons sérieux. Dans les faits, plusieurs des sociétés fondées dans les années 1990, comme Google, Yahoo ou AOL, pour prendre des exemples poignants, semblent déjà avoir atteint le stade de la maturité ou du déclin, même si le cas de Google est moins clair. Peut-être sommes-nous, sans le savoir, au début d'un cycle caractérisé par l'Internet des objets et ou l'intelligence artificielle. Quelles leçons les investisseurs doivent-ils tirer de cet exposé? D'abord, ils ne devraient pas attendre, comme Benjamin Graham et Warren Buffett l'ont fait avec succès à une autre époque, qu'une société publique verse un dividende pour y investir. Ensuite, alors zut, vous voyez, là, j'étais prêt à foncer là-dedans, moi, ben non, il ne faut pas. Ensuite, ils ne devraient pas se bercer l'illusion qu'en se tenant loin des titres techno, ils soustraient leur portefeuille au cycle de Kondratiev qui rétrécissent. Dans les faits, les constructeurs automobiles font face à la triple menace de Tesla, Uber et Google, et les institutions financières à celles de PayPal, Stripe, Square et de tous les startups misant sur le Bitcoin comme Blockstream. Dans les faits, qu'elles le veuillent ou non, les sociétés de tous les secteurs sont exposées aux révolutions technologiques majeures et les investisseurs devraient en prendre note. Aussi, si Warren Buffett était né dans les années 1980, il est fort à parier qu'il aurait développé des principes d'investissement différents, adaptés à son époque. Bon, ça on s'en doute, mais je suis très triste parce que je pensais qu'avec cet article, on saurait enfin comment faire pour s'enrichir en bourse. Ben non, c'est toujours aussi aléatoire, aussi difficile, aussi improbable. J'allais dire aussi immoral, mais c'est pas vrai.
Et je vous donne un autre exemple plus canadien, celui-là. Personne jamais aurait cru que l'entreprise la plus capitalisée au Canada ne serait pas une banque, la Banque Royale, pour nommer la plus grande. Eh bien non, ça y est, c'est fait. Valéant est maintenant l'entreprise qui a le capital le plus élevé en bourse, Valéant, qui est une pharmaceutique. Vous voyez que tout change et souvent très rapidement. Arthur H. qui chantait « Le paradis, il est chinois ». Et ça introduit merveilleusement bien notre dernier sujet. Je vous parlais la semaine dernière de cette crise boursière en Chine et des moyens considérables que le gouvernement chinois met en place actuellement pour la juguler, notamment en empêchant la revente des actions aux principaux actionnaires et aux sociétés d'État. Eh bien, sachez que non, ça ne fonctionne pas jusqu'à maintenant. La bourse continue de dégringoler. Et si je veux vous parler de l'investisseur chinois, c'est pour vous dire que cet investisseur-là est en train de se faire avoir, mais dans les grandes largeurs. Il faut savoir que la bourse chinoise s'est emballée au cours de la dernière année. Elle a pris une vigueur incroyable parce que les petits investisseurs y sont venus. Les grands s'en sont retirés tranquillement. Les petits investisseurs sont en train de perdre les profits accumulés au cours des derniers mois et les grands vont revenir et s'accaparer de ces profits-là ensuite. C'est magique quand même, la magie de la bourse. Ceci dit, Christine Lagarde au Fonds monétaire international dit qu'il n'y a pas vraiment à s'inquiéter parce que les fondamentaux, l'économie chinoise derrière la bourse, elle est encore bonne et solide. Et c'est la question sur laquelle je vous amène à réfléchir pour ce dernier sujet de l'émission. Est-ce que on connaît bien les fondamentaux chinois, les fameux 7 % de croissance qui sont l'objectif? Est-ce que c'est un chiffre réaliste à nous au Canada qui regardons ce chiffre avec envie puisqu'on ne fera même pas 1,5 cette année si on a de la chance? Eh bien, sachez que les statistiques de Pékin sèment le doute chez les experts. C'est d'ailleurs le titre de Marie Charelle, un texte paru dans Le Monde et qui a été repris dans Le Devoir du 29 juillet. La croissance chinoise s'est-elle vraiment établie à 7 % au deuxième trimestre, comme l'affirme Pékin? Nombre d'économistes en doutent et soupçonnent le régime communiste de gonfler ces chiffres. Les statistiques chinoises sont parmi les moins fiables au monde, a sénécé Yves Montenay, président de l'Institut Culture, Économie et Géopolitique. Selon un sondage de Bank of America Merrill Lynch, 75 % des investisseurs sont convaincus que le véritable taux de croissance de l'Empire du Milieu est inférieur à 6 %. Dans une note sur le sujet, Patrick Artus, chef économiste de Natixis, estime même que le produit intérieur brut n'a probablement guère progressé de plus de 2 % au deuxième trimestre. De leur côté, les économistes de Citigroup jugent que sur les trois premiers mois de l'année, la croissance chinoise n'a pas été de 7 % mais plutôt de 6. Plus sévères, les analystes de Lombard Street Research, un institut de prévision britannique, assurent qu'elle n'a pas dépassé 3,8 et selon leurs calculs, le produit intérieur brut n'a pas cru de 7,3 en 2014, comme l'affirment les statistiques officielles, mais de 4,4. Pour parvenir à ces chiffres, les économistes passent au crible une batterie d'indicateurs permettant d'estimer le taux de croissance réel. Exemple, les importations. Selon le gouvernement chinois, elles ont plongé de 6,7 sur un an en juin, 18,1 en mai et 16,2 en avril. Or, si le produit intérieur brut avait augmenté de 7 % au deuxième trimestre, elles auraient dû progresser d'au moins 13,5 % sur la période, selon les calculs de M. Artus. Même constat si l'on se penche sur la production d'électricité ou le fret maritime et ferroviaire qui constituent de bons indicateurs du niveau réel de production. Là encore, il laisse penser que la croissance du deuxième trimestre s'est établie autour de 2 %, indique M. Artus. Toute la question est de savoir dans quelle mesure les autorités centrales maîtrisent ou non le trucage des statistiques. Tous les échelons administratifs gonflent les chiffres de l'échelon inférieur pour se faire bien voir ou cacher une bourde, explique M. Montenay, une pratique toutefois moins répandue qu'il y a quelques années. Mais l'attitude de l'autorité statistique chinoise agace aussi les experts. Elle ne dévoile pas sa méthodologie. Tout cela est affreusement opaque, résume Carsten Holtz, professeur à l'Université des sciences et technologies de Hong Kong, dans une étude sur le sujet. De fait, certains économistes jugent qu'elle commet aussi des erreurs de calcul de bonne foi, notamment sur l'inflation. Une chose est sûre, le ralentissement de l'Empire du Milieu a de quoi inquiéter. Les autorités paniquent. Elles ne savent plus comment relancer l'activité, explique M. Artus, redoutant un durcissement politique du régime. Les remèdes jusque-là utilisés, assouplissement monétaire et grands travaux d'infrastructure, oui, ne suffisent plus. La hausse des salaires n'a pas alimenté la consommation autant qu'espéré. Elle a surtout gonflé l'épargne et les prix de l'immobilier. Dans le même temps, elle a dégradé la compétitivité des entreprises chinoises. Ces derniers mois, nombre d'unités de production se sont délocalisées vers le Vietnam, où le travail est moins cher. En moins d'un mois, plus de 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière chinoise avaient été effacés. Cette fin juillet s'annonce tout aussi mouvementée. Après avoir tardé à prendre la mesure du vent de panique de juin, Pékin avait puisé dans le vaste arsenal de mesures à la disposition d'un régime autoritaire pour soutenir les cours et rassurer les investisseurs. Mais la volatilité boursière est toujours là, reflet d'une inquiétude persistante. Au minimum, elle témoigne de craintes profondes sur l'évolution de la croissance de la deuxième économie du monde. Dans sa livraison de juin, le magazine Problèmes économiques, publié par la Documentation française, résumait à gros traits les limites du modèle de croissance chinois. Baisse durable de la demande extérieure, européenne notamment, hausse du coût du travail, vieillissement de la population et épuisement du surplus de main-d'œuvre rurale, et accroissement des inégalités, renforcement de la contrainte environnementale, sauf à risquer la catastrophe, surcapacité de production due à une politique d'investissement forcée, particulièrement dans les bâtiments et les travaux publics, au rendement sans cesse décroissant. Convenant volontiers de ces pathologies, le premier ministre Li Keqiang mène une série de réformes courageuses à double détente. Plus de place au marché, plus de place à la consommation intérieure. Mais ça grippe, ça passe mal, ça ne convainc pas, comme si le contexte politique ajoutait au doute sur l'évolution de l'économie. Il est marqué par la reprise en main du parti à laquelle se livre le président Xi Jinping sous couvert de lutte contre la corruption, mais qui se traduit tout autant, sinon plus, par une répression politique accrue et l'étouffement de la moindre contestation dans la société civile. Peut-on réformer l'économie dans un environnement aussi politiquement contraint? Jusqu'ici, le Parti communiste chinois a toujours su se jouer avec succès de ce type de contradiction. Avec lui, la dialectique pouvait effectivement casser des briques et déplacer des montagnes. Est-ce toujours vrai? Et j'ajouterai en terminant que le problème de l'économie chinoise, c'est probablement le problème contraire de l'économie canadienne. Le Chinois épargne et ne dépense pas assez.
Alors, quelques brefs pour terminer cette émission. Je voudrais vous donner des nouvelles du pont Champlain. C'est pas encore l'hiver, je sais. Mais enfin, les nouvelles sont pas très bonnes. Figurez-vous que l'épandage de sel cette année a occasionné une corrosion très très forte à l'intérieur et les poutres centrales sont en très mauvais état. Ça nous promet des embouteillages dans quelques semaines.
Et je vous parle de la planète, plus particulièrement du nombre d'habitants sur cette planète, puisque selon le sondage de l'ONU, il y aura d'ici 2030 sur Terre 8 milliards et demi d'êtres humains, dont plus d'un milliard en Chine et en Inde. Et sachez que dès 2022, normalement, la population de l'Inde va dépasser celle de la Chine. Alors, si j'étais un tigre indien, je serais un petit peu inquiet pour mon environnement.
Le Canada lance une seconde mission de cartographie des fonds marins en Arctique. Évidemment, c'est surtout pour défendre auprès de l'ONU un dossier de revendication sur le plateau continental, au-delà de la zone économique exclusive des 200 000 marins. Et là, il y a un gros enjeu.
Et faire obstacle à la Russie à ce chapitre.
Bien entendu.
De mon côté, je vous amène à Washington. À Washington, où on s'attend que le président Obama prenne finalement une décision finale, définitive, totale et négative à propos du projet de pipeline Keystone XL dans les prochains mois, c'est-à-dire avant la fin de son mandat. Les nouvelles sont pas très bonnes pour ce pipeline.
Connaissez-vous la prochaine proie des hackers? Eh bien, ce ne sont pas les tablettes ou les ordinateurs, mais les montres connectées, hein, ce marché en pleine croissance. Eh bien, figurez-vous que la plupart des montres sont d'une vulnérabilité totale.
Oh, l'angoisse! Parlant de vulnérabilité totale, avez-vous un véhicule de marque Chrysler, ou plus précisément Fiat Chrysler, puisqu'il faut maintenant nommer ainsi cette compagnie? Eh bien, sachez que peut-être vous allez pouvoir le revendre. En effet, Fiat Chrysler a tardé à effectuer un rappel de ses véhicules, notamment les Dodge Ram, qui ont un problème de colonne de direction qui peut devenir dangereux. Eh bien, le gouvernement américain les a mis à l'amende et a exigé un rappel des véhicules, mais pas seulement un rappel, puisqu'ils ont tant tardé. Fiat Chrysler a maintenant l'obligation pour ses véhicules de vous offrir de le racheter carrément. Alors, ils doivent racheter le véhicule, déprécié selon le kilométrage, mais augmenté de 10 % de sa valeur à l'origine, ce qui fait qu'en bout de piste, vous devriez faire un peu d'argent. Bon, c'est le consommateur américain, je ne sais pas si au Canada, les mesures vont être les mêmes.
Alors, je suis toujours triste de vous annoncer des problèmes avec les choses écrites. Eh bien, figurez-vous qu'après le Financial Times, maintenant, c'est The Economist qui est à vendre. Et on est un peu triste parce que tout ça, c'est un jeu de chaises musicales qui se vident les unes après les autres et on a peur pour le contenu.
Nouveau litige en matière minière. La semaine dernière, le BAP concluait une longue étude sur la filière uranifère pour dire notamment que il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour les mines d'uranium au Québec, dont on connaît mal les effets. Bref, qu'on devrait appliquer le principe de précaution, un moratoire pour cesser de développer cette filière. Or, cette semaine, c'est autour de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire de carrément péter sa coche. Est-ce qu'on dit que ça se surchauffe dans ces cas-là? Et de dire que le BAP ne sait pas de quoi il parle, que c'est sécuritaire l'uranium, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que c'est largement établi. Et ils ont adressé une longue lettre au gouvernement du Québec pour leur dire « Mais jetez-moi ça! »
Le célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking, allez, rêvons un peu, a lancé un vaste programme pour trouver une intelligence extraterrestre. Il a mis 100 millions de dollars sur la table. Ça risque de ne pas être suffisant.
Et voilà, vous l'entendez, l'indicatif qui nous signale que ça y est, c'est fini. On ne peut plus vous donner des nouvelles. Il faut céder le micro à quelqu'un d'autre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On remercie Rémi Hermoso à la mise en onde. Et merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine.